Voilà, nous bénissons Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est le Seigneur qui nous fait grâce chaque semaine. Et sa grâce est suffisante, n'est-ce pas? Un roi qui s'abaisse, un roi qui s'incline, un roi serviteur, ça n'existe pas. Il n'y en a qu'un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Je ne suis pas pour vous, mais c'est un exercice que j'aime faire ces derniers temps-ci. M'imaginer la grandeur de Dieu. Si Dieu est le créateur de l'univers, vous pouvez chercher ça sur Google. Hein. Vous mettez dimension de l'homme à l'échelle de l'univers et vous verrez qu'on est vraiment, en tant qu'être humain, on est tout petit à l'échelle de l'univers. Déjà, à l'échelle de la Terre, on est tout petit par rapport au globe terrestre. Okay? Et c'est Dieu qui a créé tout ça. Et pourtant, la Bible dit, malgré notre finitude, notre petitesse, ce Dieu grand, créateur de l'univers, il s'intéresse à nous. Il nous a créés à son image. C'est impressionnant de réaliser cela. Pourquoi je vous dis cela? Je vous dis cela parce que si on considère ce qu'il est et qu'il est vraiment ce qu'il dit qu'il est et que c'est lui qui nous a donné cette parole, on est des privilégiés. On est des privilégiés parce que il nous fait le privilège de pouvoir être capable non seulement de recevoir cette parole, de la lire, de la méditer, mais il nous donne aussi l'opportunité de la comprendre. Et c'est sa parole. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il dit « La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair et nous l'avons connue, cette parole et ces gens qui parlent. » Et il parle de Jésus, fils de Dieu. J'aimerais donc que nous soyons, en ce deuxième dimanche de l'année, encore attentifs à la grâce que Dieu nous fait d'être chaque semaine comme ça, exposé à l'écoute de sa parole, ou du moins méditer la parole de Dieu ensemble. Et nous avons commencé à le faire en laissant nos regards dans le Nouveau Testament, dans la deuxième épître de Pierre. Et ce matin, je voulais nous ramener à la première épître de Pierre, faire une lecture dans cette épître de Pierre, que je commenterai dans un deuxième temps, mais voir une application de l'épître, de la deuxième épître de Pierre que nous avons vue dimanche dernier. Et là, c'est l'apôtre Jean qui va nous parler de quelqu'un que nous pouvons identifier comme quelqu'un qui a vraiment expérimenté ce que nous avons vu dimanche dernier, à savoir, comme l'apôtre Pierre le disait dans 2 Pierre, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance. Vous vous souvenez ? À la connaissance, là, l'endurance, à l'endurance dans l'épreuve, la piété, l'amitié fraternelle, et à l'amitié fraternelle, l'amour. Et nous verrons une des personnes dont l'apôtre Jean parle, et pour moi, ça sera l'objet aussi de vous redire mes voeux au travers de cette expression de l'apôtre Jean. Et puis, en troisième partie, nous verrons pourquoi nous sommes Église de Dieu, nous sommes là pour proclamer la gloire et la grâce de Dieu, mais aussi pour avertir nos semblables qui n'ont pas le Seigneur. Et nous ferons cela avec le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, que j'ai beaucoup commenté à la fin de l'année 2019-2020. Vous trouverez ces messages sur le site de l'Église. Vous les trouverez aussi sur notre chaîne YouTube, où j'ai essayé de commenter ces textes qui nous parlent des temps de la fin, avec une perspective qui est plutôt celle que le Seigneur nous donne. Alors, ce matin, toujours dans ce grand thème, « Vivre dans l'attachement au Seigneur », tous les chrétiens sont des serviteurs. Tous les chrétiens, toutes les chrétiennes sont des serviteurs de Dieu, sont des servants de Dieu. Nous sommes tous serviteurs, servants de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons rester attachés à Dieu, parce que nous sommes à son service. Pas en tant qu'esclave, mais comme des enfants qui servent dans la maison de leur père et qui prennent soin des biens de la maison de leur père. Nous ferons maintenant une longue lecture dans 1 Pierre chapitre 2. Je vous invite à être attentif à cette lecture-là. Donc, ça fait suite un peu à ce que nous avons déjà vu. L'apôtre Pierre écrit « Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme les enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Et je saute jusqu'au verset 7. « Pour vous donc qui croyez, l'honneur, mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre rejetée par les constructeurs est devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice, une pierre qui fait tomber, un rocher qui fait trébucher, parce qu'ils refusent de croire à la parole. Il leur arrive ce qui était prévu par eux, ils tombent à cause de cette pierre. » Verset 9. « Mais vous, vous êtes une race élue, une communauté des rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Car vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi, je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre à l'âme. Verset 15, un peu plus bas. Car voici ce que Dieu veut. C'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit, aimez vos frères en la foi, réservez, révérez Dieu, respectez le roi. Verset 24, encore plus bas. Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant morts pour le péché, nous menions une vie juste. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais à présent, vous êtes retournés vers le berger qui veille sur vous. Amen. Nous sommes retournés vers le berger qui veille sur nous, le berger de nos âmes, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà que l'apôtre Pierre, inspiré par Dieu, nous laisse ces paroles que nous sommes en train de méditer depuis quelques dimanches. L'une des personnes que j'aimerais mentionner maintenant, pour faire un peu écho à ce que Pierre dit, dont la vie chrétienne a été exaltée, a été honorée par un autre apôtre qui s'appelle Jean, va me permettre de, moi aussi, vous dire, en tout cas, je souhaite articuler ces versets pour vous souhaiter une fois de plus mes vœux dans cette nouvelle année. Il s'agit de l'apôtre Jean dans sa troisième épître, lorsqu'il écrit, tu peux aller à la troisième, voilà, que tu prospères comme l'est l'état de ton âme. Vas-y encore. Je vais lire le texte dans cette épître de Jean. L'ancien, donc Jean parle de lui-même, il se nomme l'ancien, à Gaïus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église, tu feras bien de pourvoir le voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. L'apôtre Jean mentionne un certain Gaius, n'est-ce pas? Il exprime à ce frère combien il appréciait. Il appelle bien-aimé. Et à quatre reprises, dans une petite épître comme celle-là, qui fait à peine un seul chapitre, à quatre reprises, il appelle ce frère bien-aimé. Il exprime qu'il apprécie beaucoup Gaius. C'est cet amour fraternel dont parlait l'apôtre Pierre dans sa deuxième épître lorsqu'il dit « Ajoutez à votre foi l'amitié fraternelle. » Et l'apôtre Jean a trouvé en ce frère Gaius quelqu'un qui vraiment est un ami fidèle. L'amour fraternel de l'apôtre Jean pour ce chrétien Gaius est sincère. C'est un amour profond, à tel point, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette expression « bien-aimé » n'est pas juste une façon de parler, ce n'est pas juste un code. Parfois aujourd'hui, c'est comme si c'est devenu un attribut. Hein? C'est un synonyme de chrétien. Au lieu de dire la chrétienne Agnès, je dis bien-aimée Agnès. Mais il ne s'agit pas d'un attribut, il ne s'agit pas d'une expression qui n'est pas remplie d'un certain sens. Quand l'apôtre Jean dit bien-aimé, c'est qu'il pense dans son cœur que ce frère est vraiment un bien-aimé pour lui. Et l'une des questions pour nous, c'est lorsque nous articulons cette expression pour un frère, pour une sœur, pour quelqu'un, est-ce que c'est juste une expression ou c'est l'expression de quelque chose que nous croyons vraiment parce que ce frère, parce que cette sœur est un bien-aimé, est une bien-aimée. Il pense vraiment que Gaius est un bien-aimé pour lui. Et c'est ce qu'il a vu, c'est ce qu'il a entendu que Gaius manifeste. Il dit, je souhaite que tu prospères, Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. N'est-ce pas le vœu le plus cher que nous souhaitons en cette année 2022? Hein? Moi, quand je dis bonne année à mes voisins, la première chose qu'ils me disent, santé. Hein? Parce qu'on est dans un temps où on a besoin d'être en bonne santé. Et l'apôtre Jean disait cela déjà à Gaius. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé. Ici, au-delà d'un vœu pieux, l'apôtre Jean semble formuler une prière. Ce n'est pas juste un souhait. Vous savez, on peut souhaiter plein de choses à plein de gens. Mais le souhait est une... Je ne veux pas être méchant, mais finalement, le souhait, c'est comme une vile civilité. Vous savez, les civilités, on en a beaucoup dans notre monde aujourd'hui. À l'époque, les civilités n'étaient pas justes. Vous savez, une civilité, c'est je fais ça parce que tout le monde fait comme ça. Okay? Si je prends l'expression bonjour, bonjour est devenu une civilité sans sens, en fait. Or, en fait, si vous prenez l'étymologie du mot bonjour, je souhaite quand je te salue que ton jour soit bon. Je te souhaite une bonne journée. C'était ça l'expression. Et les Juifs avaient une expression plus forte, c'était le shalom. Je te souhaite la paix pour cette journée-là. Nos souhaits sont de belles expressions. Ça montre que nous aimons les gens. Mais si nos souhaits restent des vœux pieux qui ne se transforment pas en prière, parfois, bah, on fait comme tout le monde. Hein? À peine on a dit ce souhait-là, à peine le vent l'a emporté, parce que ça ne va pas plus loin que ça. Par contre, si mon souhait se transforme en prière, un peu comme si l'apôtre Jean disait, au-delà de « je te souhaite », il dit « je prie que tu prospères ». Je prie que tu prospères, Gaius. Je prie que tu sois en bonne santé, Gaius. L'une des expressions de l'amour fraternel, c'est la prière qu'on peut adresser à Dieu pour quelqu'un qu'on aime, pour quelqu'un qu'on apprécie, pour quelqu'un avec qui on est en relation. La condition spirituelle de Gaius était bonne. Au point où il pouvait dire, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme l'est l'état de ton âme. C'est-à-dire, l'apôtre Jean était convaincu que l'âme de Gaïs était en bonne santé. L'apôtre Jean était convaincu que la vie spirituelle de Gaïus était une vie spirituelle qui grandissait, qui prospérait, qui croissait en maturité vers le Seigneur Jésus, qui manifestait les caractéristiques dont nous avons parlé dans 2 Pierre. Il dit, comme je vois que ta vie spirituelle prospère comme ça, je souhaite aussi que ta vie ordinaire prospère de la même façon. Comme je vois que ta vie chrétienne est en bonne santé, je souhaite aussi que ton corps tout entier soit en bonne santé, comme l'est ta vie spirituelle. Gaïus avait une excellente santé spirituelle. Sa marche chrétienne et sa conduite lui ont valu une grande estime de la part, non seulement de l'apôtre Jean, mais de ceux qui étaient avec lui dans l'église, là où il était, les membres de la communauté, et même des gens qui n'étaient pas de leur communauté, mais qui étaient des visiteurs, des étrangers. Tu peux descendre. Et ça, c'est important. Les frères qui venaient dans cette communauté rendaient un bon témoignage de ce bien-aimé Gaïus. Le chrétien le louait régulièrement pour son obéissance parfaite à la parole, aux principes fondamentaux de la foi. Sa réputation spirituelle était bien établie. Gaïus ne cherchait pas d'abord que les frères aient une bonne idée de lui. C'est parce qu'il vivait cela que les frères voyaient ce qu'il vivait, que les sœurs voyaient, que les gens de son entourage voyaient. Il dit, tu marches dans la vérité. Tu marches dans la vérité, n'est-ce pas? Les actes de Gaïus correspondaient à ses paroles. Il était un exemple parfait d'une personne qui met en pratique ce qu'elle prêche, selon 2 Jean, chapitre 4, verset 4. Quand on dit parfait, ça nous fait peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait à part Jésus? Le mot parfait dans la vie d'un être humain, ça veut dire quelqu'un qui fait des efforts. On voit que ces efforts sont constants pour maturer, grandir, aller vers la statue parfaite de Christ. On voit qu'il est en progression. Chacun de nous progresse à son niveau, mais ce qui est important, c'est de progresser. C'est de progresser. L'éloge qu'il reçoit de l'apôtre Jean compte parmi les plus remarquables de tout le Nouveau Testament. Ce n'était pas une connaissance théorique seulement qu'il visait quand il parle de la vérité. C'était sa fidélité dans la mise en pratique de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Jésus dit, vous êtes heureux si vous entendez ces paroles, pourvu que vous les pratiquiez. Il dit, heureux l'homme qui écoute, pas pour oublier, mais pour les pratiquer. Parce que Jésus a deux images. Il dit, celui qui écoute et qui ne pratique pas est comme un fou qui a construit sa maison sur du sable, qui a mis ses fondations sur du sable. Il dit, les temps mauvais se sont levés, le vent, la bourrasque, et même une inondation, cette maison a été emportée. Il dit, par contre, le sage, c'est celui qui bâtit sur le roc, celui qui écoute, pas juste pour écouter, mais qui écoute et qui dit, il faut que cette écoute me donne de vivre quelque chose avec mon Seigneur Jésus. Je veux que ce que j'écoute, que ce que je lis dans la parole ne laisse pas juste une parole intéressante, une belle parole, mais qu'elle ait un effet sur ma vie concrète. C'est de cela qu'il s'agit. Enfin, tu peux descendre encore, s'il te plaît. Il dit, je n'ai pas de plus grande joie. C'est l'apôtre Jean qui parle. C'est essentiellement dans la conduite de Gaïus que l'affection de Jean trouvait sa source. Le cœur de Jean se réjouissait de la conduite irréprochable de ce bien-aimé. Et il était fier d'avoir un tel enfant spirituel parmi ses enfants. Il dit, tu agis avec fidélité, tu agis fidèlement. La foi véridique a toujours pour fruit la bonne œuvre véritable. Ça dit que Gaïus n'était pas simplement quelqu'un qui vivait la parole de Dieu dans sa façon de se comporter, de vivre, mais il servait dans l'église, il était actif dans l'église. Il était actif, il s'intéressait à tout ce qui se passait dans sa communauté et s'y impliquait. Même quand il y avait des frères étrangers de passage, il était aux soins de ce bien-aimé-là. Au point où l'apôtre Jean lui dit, continue à le faire. Prends soin d'eux. Si tu le peux, pourvois même aller voyager. Et ces frères étrangers, dans le premier siècle, les églises n'avaient pas tous des prédicateurs permanents. Donc il y avait des prédicateurs itinérants qui allaient d'église en église pour prêcher l'évangile. Ça arrive aussi en France. On a quelques églises qui n'ont pas de pasteur. Et parfois, comme dimanche prochain, je ne serai pas ici parce que je serai dans une autre église pour prêcher. Nous sommes invités à aller dans ces églises-là. Nous, les pasteurs, que nos églises peuvent embaucher, nos églises nous prêtent à d'autres communautés où nous sommes en service pour prêcher l'évangile. Et dans le premier siècle, c'était encore plus accru, où ses frères, ses serviteurs étaient des itinérants, et quand ils étaient de passage, ben, l'église était bien contente et il y avait des gens qui s'en occupaient. L'hospitalité. C'est pour cela que l'apôtre Jean est fier de ce chrétien, parce que sa conduite manifeste la pratique de la parole de Dieu, parce que son engagement dans la communauté est un engagement actif. Voilà un exemple. Si nous voulons regarder, est-ce que dans la Bible, à part Jésus, y a-t-il des personnes qui ont manifesté ce que nous avons lu il y a deux dimanches, ajoutez à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance dans l'épreuve, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour, la gaïs est un exemple d'un être humain comme nous, au premier siècle, qui a littéralement vécu ces choses, dont l'apôtre Jean fait l'éloge, dont il est fier. Parce que ce qui nous arrive souvent, c'est que nous disons, ah oui, mais c'est Jésus le parfait. C'est Jésus qui est capable de vivre ça. Nous là, on est des êtres humains, on est toujours un peu faillibles. Et là, j'en dis, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce qu'il y a un certain Gaïs, qui est un chrétien ordinaire, qui n'est même pas un apôtre, et qui a été capable de vivre ça. S'il y a un défi pour nous dans cette année, c'est de dire, je veux être un chrétien, certes ordinaire, mais capable de vivre la parole de Dieu dans ma vie. Capable de laisser Dieu vraiment m'impacter pour que mon comportement, mes valeurs, mes pensées soient vraiment pétries, façonné dans la volonté de Dieu. Et je veux aussi m'engager à servir mon Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, il faut quand même faire attention si nous voulons reprendre ce verset pour des bien-aimés ou pour des personnes que nous apprécions. Parce que quand même, l'apôtre Pierre dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, si je dois dire à moi-même, Serge Aimé Oulahi, Serge, il faut que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé comme l'est l'état de ton âme, il faut que je me rassure que mon âme est en bonne santé. Il faut que je me rassure que mon âme est en bonne santé. Il faut que je me rassure que si je dis ça pour un frère, que je me rassure que son âme est en bonne santé. Parce que si son âme n'est pas en bonne santé, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de lui dire que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé, comme la mauvaise santé de ton âme. Ça ne va pas. Ça ne peut pas aller. C'est pas une, en ce moment-là, c'est pas une proclamation heureuse pour ce frère. C'est plutôt une proclamation qui a plutôt l'allure d'une malédiction. Parce que si son âme, si sa relation avec Dieu n'est pas en bonne santé, et que je lui souhaite de prospérer comme l'est l'état de son âme, de sa vie chrétienne, c'est pas bon. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire dans un deuxième temps? Ça veut vouloir dire que pour Dieu, tout est important. Mais ce qui est essentiel, d'abord, c'est l'état de notre âme. Dieu prend soin de nous. Il prend soin de notre quotidien. Il veut que nous prospérions. Il veut que nous soyons à l'abri du danger. Prospérer, c'est ça. Être à l'abri du besoin. Et nous prions pour que nos bien-aimés de cette communauté, que chacun de nous, que chacun de vous soit à l'abri du besoin. Parce qu'on ne travaille pas pour continuer à ne pas être à l'abri du besoin. On ne travaille pas pour ne pas avoir un logement décent. On ne travaille pas pour ne pas manger à sa faim. On ne travaille pas pour ne pas être habillé comme il le faut. On ne travaille pas pour ne pas pouvoir soutenir nos familles. Non, on travaille pour être en bonne santé. On travaille pour avoir un logement décent. On travaille pour avoir des conditions de vie décentes. Et Dieu aime cela. Et Jésus l'a clairement dit dans son discours dans l'évangile de Matthieu. Il dit, Dieu se soucie de votre quotidien. Comment est-ce qu'un Dieu qui a mis des lois dans la nature et ces lois-là font en sorte que l'oiseau qui ne sème ni ne moissonne parce que l'oiseau il n'a pas de plantation, il dit, et pourtant, l'oiseau se nourrit. C'est des lois naturelles que Dieu a mis dans la nature. Il dit, si Dieu a fait ça pour les animaux, à plus forte raison pour ceux qu'il a créés à son image, les êtres humains. Donc Dieu prend soin des êtres humains. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Que cet exemple de Gaïus qui prospère, je souhaite que chacun de vous, que chacun de nous prospère. Je souhaite qu'en cette année, que devant une situation sanitaire difficile, que vous soyez en bonne santé, que vous soyez sages, que nous ayons les réflexes dans ces temps de conditions sanitaires, que nous soyons des gens qui soyons sensés. Sensés pour nous-mêmes, sensés pour ceux qu'on aime. Autant que nous pouvons nous protéger, faisons-le. Nous le faisons pour nous-mêmes, nous le faisons pour les autres. Je vous souhaite la bonne santé. Et je prie pour tous ceux qui n'ont pas de bonne santé, comme il y en a quelques-uns dans notre église, que le Seigneur soit votre force, que le Seigneur soit votre appui, que le Seigneur soit celui qui vous donne, malgré la santé qui n'est pas là, ce courage de la vie, cette espérance. Comme le disait l'une de nos sœurs qui a une santé très fragile, elle dit, mais pasteur, je n'ai pas le choix, hein. C'est ma santé, elle est comme ça. Donc j'ai dit au Seigneur, quand je suis sur mon lit, mais tu sais tout, et il me donne la force. Et c'est des témoignages qui nous encouragent. Le deuxième point que je vais aborder, c'est ce que nous avons lu dans le premier texte de 2 Pierre, chapitre 2. Le but de Dieu en se choisissant des croyants pour lui-même, quel est le but de Dieu? On l'a vu un peu à la fin du message du dimanche dernier. Au verset 9, l'apôtre Pierre, poussé par Dieu, il dit, si Dieu sauve des hommes et des femmes, c'est pour les mettre à l'abri du péché, bien sûr, mais quand il les rassemble en église, qu'est-ce qu'il veut en faire? Il dit, c'est pour qu'au contraire, vous soyez un peuple choisi. Vous soyez des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Vas-y, s'il te plaît. Un peuple choisi. Quand Dieu est un pédagogue, Dieu, la pédagogie de Dieu passe toujours par les êtres humains, par un groupe ou par une personne. Et quand Dieu s'est choisi la nation d'Israël, il a dit à Israël, c'est pas parce que vous êtes meilleur par rapport aux autres, c'est un choix. Et Dieu choisit, on dit Dieu choisit dans son souverain dessein, parce qu'au-dessus de Dieu, il n'y a personne. C'est lui qui choisit. Il a toujours raison quand il fait ses choix. Et c'est la grâce. Il a dit, maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Exode chapitre 19, c'était lors de ce qu'on appelle l'alliance du Sinaï. Malheureusement, le peuple d'Israël a failli, et Dieu savait qu'ils allaient faillir. Et donc Dieu avait déjà un plan d'avance. Et même quand on regarde la lignée d'Israël, il n'y a pas que des Juifs dans ce qu'on appelle le peuple de l'Ancien Testament. Il y a bien d'autres nations. Et le père fondateur, celui qu'on appelle le père de la foi, Abraham n'était pas juif à l'origine. Abraham est sorti d'une nation qu'on dit nation autre, puisque la nation juive est venue bien longtemps après dans les descendants d'Abraham, avec Jacob, bien longtemps après. Aujourd'hui, et c'est ce que l'Épître aux Éphésiens dit, il dit dans les temps que Dieu avait marqués, Dieu a révélé son vrai plan. Son vrai plan, c'est qu'il allait rassembler tous les hommes, toutes les femmes, de quelque race qu'ils soient, de quelque ethnie qu'ils soient, de quelque couleur qu'ils soient, pour en faire son peuple. Aujourd'hui, les croyants constituent un peuple élu. L'Église, que vous voulez avec petit E ou avec grand E, c'est celle-là qui est le peuple élu de Dieu. Un peuple qui a été élu, pas parce que nous sommes des méritants, mais c'est la grâce de Dieu. Dieu a choisi, avant la fondation du monde, Éphésiens chapitre 1, verset 4, que nous lui appartenons. Et nous ne sommes pas un peuple de lignée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous les descendants de la même personne ou de la même lignée raciale. Non. Nous sommes, si on fait notre arbre généalogique, chacun de nous, ça part dans tous les sens. Et pourtant, Dieu nous rassemble comme ses enfants. C'est un peuple céleste, un peuple spirituel, un peuple de femmes et d'hommes qui ont accepté Jésus, dont Dieu est leur père. Et Dieu est leur mère aussi. C'est des traits spirituels qui nous mettent ensemble. Il dit alors, nous sommes un peuple choisi. Il faut en avoir conscience de cela. Quand Dieu te rencontre et que tu tournes ton cœur à Dieu et que tu dis tu es chrétien, tu appartiens à un peuple que Dieu s'est choisi. Un peuple que Dieu s'est choisi. Deuxièmement, les croyants constituent également un sacerdoce royal. Le mot sacerdoce veut dire service. Hein? Le sacerdoce, on dit parfois dans le monde séculier, on dit pour moi, être ministre de ce gouvernement, c'est un sacerdoce. C'est-à-dire que je le vis comme quelque chose qui est une consécration. C'est pas juste un métier où je gagne mon argent. Non, je suis là pour donner de ma personne. Je suis là, c'est un engagement de mon cœur, au-delà même du salaire qu'on me donne. Dans le sens contraire, il y a des gens qui disent, pour moi, je suis pas là comme un sacerdoce. Moi, je suis là pour gagner mon salaire, c'est tout. Je suis là pour faire mes 35 heures. Je les fais, allez, après, je rentre chez moi. Faut pas me demander plus. Alors qu'un sacerdoce, c'est quelque chose dans lequel on s'investit. Parce qu'on y croit. Parce qu'on croit qu'en s'investissant, ça apporte quelque chose aux autres. Nous sommes décrits, les croyants, les chrétiens sont décrits comme des sacrificateurs, saints, qui offrent des sacrifices spirituels. Vous savez que les sacrificateurs, dans l'Ancien Testament, ils étaient les seuls, ils étaient issus de la tribu de Lévi. C'était les seuls que Dieu avait choisis pour faire les sacrifices. Je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, on ne comprend pas les sacrifices. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas de culture païenne. Mais à l'époque, pour que le péché d'un enfant de Dieu soit pardonné, il ne pouvait pas juste rester dans sa maison et dire « Seigneur, pardonne-moi ». Ça n'avait pas de sens. Il était obligé aussi d'aller faire un sacrifice d'animal. Parce que Dieu voulait leur montrer qu'un péché, ça coûte la vie d'un animal. Parce qu'imagine-toi, si dans la seule journée, tu as péché 10 fois, ça veut dire que tu vas faire le sacrifice de 10 animaux. C'est beaucoup quand même. Donc ça te fait un peu réfléchir. Vous dites « Oula !» Donc, c'était une pédagogie. Aujourd'hui, comme nos demandes de pardon ne sont pas matérialisées, souvent, on fait ça avec légèreté. On fait ça avec légèreté, puisque ce n'est pas matérialisé. Comme c'est une image, hein, c'est pas, je ne sais pas si c'est un fait vrai, mais comme cette personne qui vivait à chaque fois dans la même chose et qui dit « Seigneur, toi-même, tu sais. Seigneur, toi-même, tu sais, je te demande pardon. Mais tu sais que je vais reprendre demain. Ah! Tu sais. Nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes, pour nous qui sommes des parents, nous sommes sacrificateurs pour nos familles. Ça veut dire quelque part, nous sommes là pour porter nos enfants devant Dieu. Comme Job. On dit tous les matins, Job, quand il se levait, il demandait, faisait des sacrifices pour ses enfants. Il dit, je ne sais pas où ils sont partis, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je demande pardon pour eux. Il fait le sacrifice. Aie pitié d'eux. Et nous qui sommes parents, c'est ce que nous faisons pour nos enfants, en tout cas les parents chrétiens. Nous les portons constamment devant Dieu, en demandant à Dieu d'avoir pitié d'eux, de leur faire grâce, de leur ouvrir des chemins, de leur éviter les pièges, de les garder des malédictions, et plutôt de les bénir. Nous sommes sacrificateurs pour nos enfants, parce que nous sommes devant Dieu. Et dans cette parentalité, je ne dirais pas qu'il y a un des parents qui le fait plus que l'autre, mais je dirais que dans les expressions de ce sacrifice parental, on voit un peu plus les mamans le faire. Ça ne veut pas dire que les papas ne le font pas, mais voilà, on a l'image que l'apôtre Pierre, Paul lui-même, il prend, hein. Il dit comme une mère. Mais on voit que Job, qui est un papa, le fait aussi, n'est-ce pas? Donc c'est important d'avoir cette idée, à notre esprit, ça. Nous sommes des serviteurs. Nous offrons des sacrifices spirituels pour ceux que nous aimons. Nous sommes un sacerdoce royal, nous sommes là pour proclamer les vertus de Dieu. Servir le Seigneur, enseigner la loi de Dieu, consulter l'Éternel. Ces trois choses sont importantes. Un serviteur, un sacrificateur, c'est ce qu'il faisait. Enseigner la parole de Dieu. Nous sommes tous serviteurs et servants de Dieu. Nous devons tous, à notre niveau, aussi ordinaire que nous soyons, enseigner la parole de Dieu. Pour le faire, il faut que nous-mêmes soyons enseignés, n'est-ce pas? Pour pouvoir enseigner. Nous devons aussi apprendre à consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel, c'est dans des moments de choix de vie importants, et même parfois dans des moments de choix de vie qui peuvent paraître simples, on a besoin de savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et la Bible regorge de toutes les situations de vie. Donc le premier élément que nous pouvons consulter pour connaître la volonté de Dieu, c'est d'aller chercher dans la parole de Dieu. Ensuite, c'est dans la prière. Seigneur, voici le défi qui se présente à moi. J'ai vraiment besoin que tu me guides. J'ai besoin de ta grâce. C'est ça, consulter l'Éternel. Et Dieu, il répond. Et Dieu, il répond. Parfois, il répond par une pensée qui va t'envahir fortement. Et là, tu ne sais pas pourquoi, mais cette pensée, elle est là. Elle te conduit. C'est ce choix-là qui semble s'imposer à toi. Tu dis, mais je ne comprends pas là. J'ai comme l'impression d'être bougé pour aller que dans cette direction. Et c'est une façon pour Dieu. Et parfois, c'est les circonstances qui se mettent en place. Et tu vois que tous les feux sont ouverts dans un certain sens. Est-ce que tu prends l'habitude de consulter l'Éternel en tant que chrétien? Est-ce que tu prends l'habitude de demander à Dieu, est-ce que ça fait partie de ta volonté pour moi? Vous savez, l'Éternel est celui qui sait tout puisqu'il est omniscient. Donc, lui demander de nous guider, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Puisque lui, il sait. Il a 10 000 coups d'avance que nous. Et il veut qu'on lui fasse confiance. Et consulter l'Éternel, c'est important. Nous sommes sacrificateurs. Ensuite, nous formons une nation sainte. Les chrétiens forment un peuple de Dieu que Dieu s'est acquis pour manifester aux yeux du monde la sainteté de Dieu. Si l'Église faillit, comme elle a failli pendant certaines époques de l'humanité, quand l'Église faillit, c'est Dieu qui est remis en cause. Et on sait que l'histoire de l'Occident est entachée de l'athéisme, parce qu'à un moment donné, l'Église a failli. L'Église institutionnelle a fait tellement de bêtises que le monde a dit, si c'est ça l'Église, nous on préfère être des païens. Quand il y a eu la guerre des religions, ici en Occident, on appelle ça la guerre des 100 ans, pendant un siècle, les religions se sont fait la guerre. Protestants contre catholiques. Se sont fait la guerre. Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent quand c'est... Il y a des événements qui sont des événements horribles, dont le souvenir marque jusqu'à aujourd'hui l'histoire de France. Il y a ce qu'on appelle dans le Sud tout l'épisode des épis, des églises du désert qui ont dû se cacher. On t'arrêtait, on te mettait au bagne ou en prison parce que juste tu étais protestant. Et dans les nations protestantes, on en faisait pareil pour ceux qui étaient catholiques. À Paris, tapez sur Internet la Sainte-Barthélemy, je vous en ai parlé souvent, c'est une journée noire, où les catholiques ont décidé de finir avec tous les protestants de la ville de Paris. C'était un massacre dans Paris. C'était un massacre. Sur le simple fait qu'ils étaient protestants. Quand l'Église fait ça, qu'est-ce que vous voulez que ceux qui n'ont pas la foi croient? Nous sommes une nation sainte. Nous sommes des enfants de Dieu, pas un peuple exceptionnel pour dire aux autres, vous êtes rien. Mais nous sommes un peuple qui doit montrer par la qualité des vertus que Dieu a mis en nous, que nous devons vivre, l'amour que Dieu veut pour ce monde. C'est ça, une nation sainte. Nous devons monter la sainteté de Dieu dans l'amour que nous pouvons vivre, mais aussi dans nos choix éthiques, dans nos valeurs. Ça ne vaut pas toujours des lauriers, mais c'est ça, un peuple saint. Un peuple qui est là aussi pour vivre les valeurs selon la pensée de Dieu. Et en ce sens, ça nous semble un peu comme des saumons. Le saumon est l'un des poissons qui a tellement de force qu'il rame à contre-courant. Et nous, souvent, en tant que croyants, en fonction des époques de l'humanité, nous sommes malheureusement beaucoup de fois invités à ramer à contre-courant. Parce qu'au moment où tout le monde dit « c'est ça qu'il faut faire », la Bible dit « non, c'est pas ça qu'il faut faire ». Et nous devons être en ce moment-là une nation sainte, nous positionner et marcher dans cette sainteté-là. L'apôtre Pierre insiste beaucoup sur cette sainteté. Il dit « puisque vous êtes des enfants de Dieu, puisque vous êtes un peuple élu, puisque vous êtes un sacerdoce royal, puisque vous êtes une nation sainte, soyez ce que vous êtes. Soyez des chrétiens, soyez des chrétiens. » Des gens mis à part, dont la vie est modélée par la pensée de Dieu dans la Bible. Il dit, c'est de reste pour vous, c'est un bonheur que de vivre ça. C'est un bonheur. Et n'oublions pas, l'apôtre Pierre écrit à des chrétiens qui étaient dans des situations difficiles, les chrétiens de la diaspora. C'était une époque où ils étaient même persécutés, où il leur dit ça. Donc, c'était pas dans une période où ils étaient tranquilles, non? On n'était pas encore dans cette période qu'on appelle la Pax Romana, c'est-à-dire que la paix était instaurée, en tout cas, dans une durée assez intéressante pendant longtemps sur beaucoup d'empires. Non, on était dans des périodes encore de guerre entre empires et où les chrétiens étaient pris pour cible, persécutés. Et pourtant, l'apôtre Pierre leur dit ça. Je termine ce matin en nous donnant aussi, tu peux descendre encore. Nous sommes des témoins de la gloire et de la grâce de Dieu. Quand on dit gloire et grâce de Dieu, il faut articuler deux choses. Dieu est un Dieu d'amour, mais Dieu est un Dieu juste. L'amour de Dieu fait qu'il fait toujours tout ce qu'il a à faire pour sauver. L'apôtre Pierre va le dire, hein? L'apôtre Pierre dit, si Dieu est patient, c'est parce qu'il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu est un Dieu d'amour. Pourquoi il le fait? Parce qu'il est un Dieu juste. Parce qu'à un moment donné, sa justice va se manifester. Et quand nous avons Apocalypse, tu peux dérouler un peu, voilà. Je vous ai mis un petit commentaire là, que j'ai tiré du commentaire de Romanowski. D'un autre commentaire. On a dans l'Apocalypse parfois des choses qu'on ne comprend pas toujours. Je l'ai expliqué. Si vous allez sur notre site, vous verrez. Hein, j'ai fait des études depuis Apocalypse chapitre 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 9 pour donner des explications. Les sceaux, les trompettes, les coupes et tout ça. L'apôtre Jean nous dit que dans la perspective de la deuxième venue de Jésus-Christ, le monde va connaître et des temps de prospérité mais aussi des temps de désastre. Et dans ces temps de désastre, c'est aussi des mini-jugements de Dieu pour que l'homme prenne conscience de son péché. Que les chrétiens, en fonction des époques, vont subir aussi des persécutions. Et que les chrétiens doivent s'attendre aussi à des temps de chagrin, à des temps de désolation. Mais qu'au milieu de toutes ces souffrances, Dieu est fidèle. Dieu continue de gérer le monde. Faut pas en douter. Dieu est celui qui encourage, qui fortifie. Et même si ses enfants, comme dans certains pays, sont mis à mort, c'est pas le cœur joyeux qui laisse faire. Mais c'est pour montrer l'ignominie, l'infamie, pour montrer comment l'être humain est mauvais. Au point d'ôter la vie à quelqu'un qui dit juste, je crois en Jésus et qui t'a pas fait de mal. Parce que c'est ça, les chrétiens persécutés dans certaines nations, c'est ça. C'est pas des gens qui ont fait du mal à quelqu'un, c'est des gens qui disent, nous on croit en Jésus. Et les autres disent, non, ici, on ne croit pas en Jésus. Ils disent, non, nous, on croit en Jésus. On dit, bah, si tu persistes, on te tue. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je crois juste en Jésus. On dit, c'est mal de croire en Jésus. Bref, l'apôtre Paul avertit. Dans l'Apocalypse, chapitre 6, versets 7 à 8, on a ce qu'on appelle le cavalier, hein, c'est les sceaux, et c'est Jésus qui lève ce quatrième sceau, et ce quatrième sceau s'appelle le cavalier et le cheval verdâtre. Et quand il va descendre, ce cavalier et ce cheval verdâtre, donc tu peux rester juste sur la... Je vous invite à lire ou à écouter le message, c'est sur le site et sur YouTube aussi. Avant que Jésus ne lève ses sceaux dans le ciel, c'est l'apôtre Jean qui a une vision, où il est triste parce qu'il n'y a pas d'avenir en fait. On lui donne un livre et personne n'a été digne d'ouvrir ce livre pour dire qu'est-ce qui va arriver à la fin des temps. Et l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, on dit qu'il est angoissé, il est pétrifié, il dit mais qu'est-ce qui va se passer si on ne sait rien, comment on peut s'apprêter et tout. Et puis il y a des voix au ciel qui lui disent, il y a un seul qui est digne, c'est l'agneau. Et puis pendant qu'on lui dit ça, l'agneau rentre en scène et l'agneau ouvre le livre. Et c'est lui seul qui est capable de déceler les sceaux. Ça veut dire que chaque époque de l'histoire dans laquelle l'humanité rentre, c'est Jésus qui les décide. Chaque époque de l'histoire, c'est Jésus qui les décide. Chaque époque de l'histoire, c'est Jésus qui les décide. Chaque époque de l'histoire, c'est Jésus qui les décide. Ça veut dire que l'époque dans laquelle nous sommes entrés, c'est Jésus qui l'a décidé aussi. Et dans ces fléaux du quatrième chevalier, du quatrième sceau, il y a la peste. La peste, c'est le synonyme des épidémies. Et symboliquement, les épidémies, en tout cas, dans la lecture de l'Ancien Testament et même dans l'Apocalypse, les épidémies sont un jugement, une forme de jugement de Dieu. On n'aime pas trop cette lecture. Parce qu'on trouve, en tout cas pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils trouvent que c'est un Dieu mauvais, qui laisse tomber des vilaines choses sur les êtres humains. D'accord? On peut faire cette lecture-là. Mais pourquoi tout le temps où il ne laisse pas des épidémies, pourquoi vous ne vous approchez pas de lui? Pourquoi tout le temps où il donne de la prospérité, vous êtes plutôt athée que chrétien? Pourquoi pendant tous les siècles où il n'y a pas d'épidémie, et que l'évangile est annoncé, vous vous approchez pas de ce Dieu-là. Pourquoi vous ne reconnaissez pas, quand tout va bien, que c'est Dieu qui le fait? Et vous reconnaissez que c'est les hommes qui sont super parce qu'ils ont créé des choses, et vous ne le glorifierez pas en tant qu'auteur des bénédictions. Mais quand c'est les malheurs, c'est lui le premier coupable. Quand c'est les épidémies, c'est lui le premier coupable. Parce que, malheureusement, comme le cas du Covid, on a du mal à situer d'où ça vient. On sait que c'est quitté en Chine, mais les théories sont tellement divergentes qu'on dit finalement, oh, pourquoi Dieu a laissé faire quoi? Oui, mais pourquoi Dieu a laissé faire toutes les prospérités qu'il a laissé faire depuis et personne ne l'a reconnu comme Dieu? Dieu nous invite à réfléchir à ces choses. Dernièrement, il y a un livre qui est sorti, apparemment qui est un best-seller, qui a été écrit par deux personnes, ils ont pris 3 années pour travailler sur ce livre. Ça s'appelle « Dieu, la science, une révolution », où il démontre, après 3 années de recherche, en prenant en compte toutes les dernières découvertes scientifiques les plus solides, ils disent quand on met toutes ces dernières découvertes ensemble, la seule conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il y a un Dieu qui existe. C'est un livre qui est volumineux comme ça. Et c'est des gens sérieux, hein. Ils ont pris les découvertes scientifiques les plus pertinentes et disent la seule conclusion à laquelle on arrive, c'est que Dieu existe. Et il paraît que les gens achètent ce livre-là. Il paraît que les gens achètent. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Et puis le journaliste pose la question, mais pourquoi vous êtes étonnés de ce succès? Il dit, nous, on est étonnés parce qu'on ne savait pas qu'il y avait une telle soif sur ces sujets-là, dans un monde diaté. En fait, les gens ont soif de Dieu. Ça se voit pas comme ça, mais les gens ont soif de Dieu. Et nous sommes là, et tu peux mettre la dernière diapo, nous sommes là, en tant qu'église de Dieu. Le but de Dieu, en se choisissant des croyants pour lui-même, c'est de leur faire annoncer ses vertus devant les autres. Les qualités imminentes de Dieu. Nous qui sommes des croyants sacrificateurs, nos vies doivent manifester la qualité de ce Dieu-là pour que les hommes et les femmes soient attirés à lui à nouveau. Nous devons être des témoins de la gloire et de la grâce de Dieu. Il ne suffit pas juste de dire « je suis chrétien ». C'est Dieu qui a fait grâce. Tu es chrétien, je suis chrétien. Je dis, nous tous, on dit merci Seigneur. Mais on a une responsabilité. C'est de faire en sorte que d'autres aussi comprennent ce message et qu'ils se tournent vers Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble.